Studio Tamani, voici nos informations en français.
Merci à toutes et à tous d'être à l'écoute de Studio Tamani. Il est 8h à Bamako. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici le journal. La France annonce qu'elle continuera de combattre le terrorisme au Sahel, mais pas au Mali. Une réunion du président français et ses homologues du Niger, du Tchad et de la Mauritanie est prévue demain à Paris. La révision de la charte de la transition divise la classe politique. Si le cadre d'échange dénonce la non-inclusivité de ce processus, d'autres partis estiment que cette révision est salutaire. C'est quoi le pardon? Quelles sont ses vertus et ses avantages dans la vie en société? C'est le sujet de notre dossier du jour, la réponse dans ce journal qui vous sera présenté par Sekou Gadjigo, mise en nom de Mamadi Keïta. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La France va poursuivre son combat contre le terrorisme au Sahel, mais pas au Mali. Déclaration faite hier par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Si les conditions ne sont plus réunies pour qu'on puisse être en mesure d'agir au Mali, on continuera à combattre le terrorisme à côté avec les autres pays du Sahel qui sont tout à fait demandeurs, a déclaré le chef de la diplomatie française. Une réunion est prévue demain entre Emmanuel Macron et ses homologues du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. Pendant ce temps, les groupes djihadistes continuent de se signaler dans le nord du Mali. Ce week-end, un poste des forces armées maliennes a été attaqué à Niafouinké, dans le nord. Les détails avec Ousmane Nyalibouli.
L'attaque s'est passée aux environs de 2h du matin, selon un communiqué de l'armée malienne. Il ajoute que les FAMA ont énergiquement réagi à cette attaque terroriste, tuant 5 assaillants. Des éléments des FAMA ont trouvé la mort. À Tessit, dans le cercle d'Ansongo, les villages de Tagalan et Tinahoget ont été attaqués dimanche matin par des hommes armés non identifiés. Des sources locales, les assaillants ont brûlé les centres de santé communautaire CESCOM, saboté les installations du Satodo avant de partir avec la ambulance. Ces présumés djihadistes ont demandé aux populations de ces deux localités de quitter les lieux. Les mêmes sources indiquent que plus de 100 ménages ont déjà fui ces villages. Ils sont allés vers Ansongo, Gao, mais aussi vers le Niger. Rappelons que les FAMA mènent des offensives dans certaines parties du centre et du nord depuis plusieurs semaines. Le président français rencontre ce mercredi à Paris ses homologues du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. Les discussions vont porter, selon l'Élysée, sur la présence des forces Takuba et Barkhane dans les Sahel. Les autorités de transition maliennes et burkinabées n'ont pas été invitées à cette réunion.
Que pensent les populations des régions du nord d'un éventuel retrait des forces étrangères? Nous avons posé la question à des habitants d'Ansongo et de Tombouctou. Si pour certains ce départ de la force européenne est risqué pour le pays, d'autres en revanche estiment qu'il est plutôt bénéfique pour le retour de la stabilité. Écoutons ces réactions recueillies avec le concours de nos correspondants à Ansongo et Tombouctou.
Ça ne nous réjouit pas. Il y en a peut-être besoin d'augmenter les effectifs. Les champs sont abandonnés, les biens sont abandonnés. Donc vraiment, on voulait peut-être le contraire, faire venir d'autres encore pour renforcer la sécurité.
On a confiance en notre armée. Notre armée est en train de monter en puissance.
Nous voulons que tous les partenaires viennent nous aider, mais dans le respect mutuel et dans les clauses, en tout cas définies par nos autorités.
Avec ces forces-là, nous avons vécu toutes les difficultés énormes. Si Takuba et Barkhane quittent aujourd'hui le Mali, vous allez voir, ce pays va aller à fond dans la paix. Ça, je vous assure.
Et pour être tout à fait complet sur ce sujet, parlant d'insécurité, 4 militaires de l'opération Keletigui ont été tués et 3 autres blessés dimanche dernier à Kignan, dans la région de Sikasso. C'était à la suite de l'explosion d'un engin explosif improvisé. L'information a été communiquée hier soir à la télévision nationale. Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur nos réseaux sociaux, notamment notre page Facebook et notre compte Twitter. Le projet de révision de la charte de la transition est en cours au niveau du Conseil national de transition. Le nouveau texte proposé par le gouvernement empêche aussi le président de la transition d'être candidat aux prochaines élections. Malgré tout, cette révision suscite des débats au sein de la classe politique. Pour certains partis, il n'y a pas eu d'inclusivité depuis le début. D'autres estiment que cette révision va être une occasion de corriger certaines insuffisances de la charte de la transition. Assez tout Kanté nous en dit plus.
Le cadre d'échange des partis politiques est catégorique. le processus n'a pas été inclusif. Ses responsables estiment qu'il fallait réunir toutes les forces vives de la nation afin d'élaborer une nouvelle feuille de route de la charte. Amadou Koïta, porte-parole du cadre d'échange des partis politiques.
On aurait dit d'abord réunir les forces vives de la nation. C'est les forces vives de la nation qui ont élaboré la charte et convenir ensemble d'une nouvelle feuille de route consensuelle. Au niveau du cadre d'échange pour une transition réussie, nous avons estimé que le délai de la transition prend fin le 25 mars 2022. Il s'agit pas d'aller réviser une transition en voulant inclure les résolutions des ANR. ANR qui n'ont été ni inclusifs, ANR qui ont été organisés tout simplement pour procéder à la prolongation de la transition. Et c'est à cause de ça que notre pays aujourd'hui se sanctionne.
Le mouvement citoyen pour l'alternance, le travail et la transparence, MCATT, ne partage pas ce point de vue. Selon son président, Jamil Bitar, cette révision va plutôt apporter une correction aux différentes insuffisances dans la charte. Mais il aurait souhaité qu'il y ait de la nouveauté, notamment la suspension de la constitution de 1992.
Nous avions parlé d'insuffisance, c'est déjà de corriger certaines insuffisances, mais également pour enlever tout équivoque par rapport à certaines situations. Mais qu'à cela ne tienne, moi je pense qu'il fallait aller plus en profondeur, essayer en tout cas d'apporter de la nouveauté.
En attendant un consensus entre les différents partis politiques, le projet en question est en cours d'appréciation entre le Conseil national de la transition et les forces vives de la nation. Il s'agit d'une approche et les séances vont se poursuivre jusqu'au jeudi prochain, souligne une source au sein du CNT.
Sur un tout autre chapitre, les produits de première nécessité sont disponibles en qualité et en quantité, rassurent les autorités. Les marchés sont bien approvisionnés en sucre, farine, riz, lait, entre autres. Le syndicat national des commerçants détaillants du Mali multiplie les efforts pour maintenir l'approvisionnement et le respect des prix tout au long de cette période d'embargo, affirment ses responsables. Khalifa Guita.
La disponibilité des produits de première nécessité ne fait pas et ne fera pas défaut au Mali. C'est l'assurance que donne le syndicat national de commerçants détaillants du Mali, Dantuma Koïta, vice-président du Sénacodem.
Ce stock peut tenir jusqu'à dans 3-4 mois. Il ne va pas y avoir de rupture. La quantité qui est disponible, bien avant que cette quantité ne soit finie, ça trouve qu'on a approvisionné par d'autres quantités qui viennent de l'extérieur. L'État s'est impliqué. Les opérateurs connaissent l'enjeu de la situation.
De son côté, le ministre de l'Industrie et du Commerce invite la population à la sérénité. Mohamed Oud Mohamed indique que toutes les dispositions sont déjà prises pour que les magasins soient toujours bondés de produits.
Il n'y a aucune crainte en termes d'approvisionnement, de disponibilité et des prix des produits de première nécessité. À la population d'abord de garder le calme. Le gouvernement a pris des dispositions pour essayer de combler même le déficit en termes d'approvisionnement du pays, c'est les denrées de première nécessité. Aujourd'hui, ces denrées sont là, elles sont accessibles. Les brigades sont en train de travailler pour assurer le respect de ces prix.
Toutefois, il faut noter que malgré cette disponibilité des produits et les garanties des commerçants, les prix connaissent des augmentations sur certains marchés.
8h08 à Ségou, près de 7 500 000 personnes sont dans le besoin humanitaire cette année au Mali. C'est ce qui ressort des statistiques données par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Pour soulager ces populations, OCHA a lancé ce lundi 14 février à Bamako son plan de réponse humanitaire estimé au Mali à 686 millions de dollars à mobiliser. Quelles sont les réponses, les personnes ciblées et comment les atteindre? Ami Martin, chef de bureau OCHA Mali, répond au micro de Draman Maïga.
C'est un plan qui est divisé par les secteurs techniques. Alors, nous avons des stratégies, des programmes, des activités qui aident les populations affectées par une crise multiple, multidimensionnelle ici au Mali. Les personnes les plus vulnérables, à travers l'abri, à travers l'alimentaire, à travers l'éducation, accès aux santé, l'eau potable, assainissement, etc. Alors, ce plan cible plus que 5 300 000 personnes qui sont plus vulnérables. Quand on parle des de plus vulnérables, on parle des gens qui sont les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants, surtout les enfants déscolarisés.
Le pardon est l'excuse d'une faute ou l'absolution d'une offense. Cette renonciation totale à la réparation d'une faute commise a des avantages pour le renforcement des liens familiaux et même de la cohésion sociale. Quelles sont donc les vertus de ce geste et quels sont ses avantages dans la vie en société? Élément de réponse dans ce reportage signé Fatih Attara.
Le pardon, cette force divine.
Il est bien et même nécessaire de se pardonner, mais il y a des limites dans chaque chose. C'est en tout cas ce que pensent beaucoup de Maliens.
Pardonner, c'est bon, mais il y a des choses qu'on peut se pardonner entre nous, mais que Dieu ne pardonne pas.
Je pardonne, mais le pardon a des limites. Il y a des choses que je ne pardonnerai jamais.
Je pardonne car c'est une consigne divine.
Du côté des religions, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, on estime que le pardon n'a pas de limites. Selon elles, le pardon est même l'une des recommandations les plus ferventes formulées par notre Créateur. Abou Bakar Diaby, imam de la mosquée de Djelibougou, à Bamako.
Ça ramène la tranquillité, la sérénité, la cohésion sociale. Sans les pardons, là, il ne peut pas avoir la cohésion sociale parce qu'on commet toutes ces erreurs-là. Il peut y avoir des parenthèses tout le temps. Donc sans pardon, là, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas vivre ensemble. Si moi, on me fait quelque chose là et je vais me venger, je ne pardonne pas là. Demain aussi, moi aussi, je peux tomber dans les mêmes erreurs.
Enfin, on vous laisse méditer sur ce proverbe africain qui dit, je cite, « Demander pardon ne veut pas toujours dire que tu as tort ou que tu es faible. Ça peut aussi dire que tu tiens plus à ta relation qu'à ton ego. »
Place à présent à la page Actu Covid de ce journal. 0 cas positifs, 0 décès et 5 guéris ont été enregistrés hier par les autorités sanitaires. La situation cumulée est donc de 30 265 cas positifs, 28 037 guéris et 716 décès. C'est ce qui nous conduit à la rubrique Actu Covid présentée ce matin par Lale Tangara.
La polémique autour de la vaccination contre le coronavirus continue. Les personnes vaccinées contre la maladie et non vaccinées se posent toujours la question. Est-ce que la vaccination est une assurance contre le coronavirus? Si certaines personnes vaccinées se sentent rassurées, d'autres restent toujours sceptiques. Que disent les médecins sur la question? Mariam Koulibaly pour plus de détails.
Se sentir à l'abri de la COVID-19 après la vaccination est pour certaines personnes une réalité. Mais avec la multiplication des doses du vaccin, d'autres émettent des réserves.
Je ne peux pas aujourd'hui parler d'être rassuré parce qu'on voit à travers le monde qu'il y a première dose, deuxième dose, troisième dose. Aujourd'hui, on parle de quatrième, cinquième dose.
Plus que rassuré, puisque je sais qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas immunisé contre le coronavirus, si je suis un jour testé positif, ça ne sera pas aussi grave.
Toutefois, des médecins soulignent qu'au Mali, la majorité des personnes atteintes de cette maladie sont celles qui ne sont pas vaccinées. Ils ajoutent aussi que les personnes vaccinées ne font pas la forme grave de la maladie. Professeur Bouré Makouriba, membre du comité scientifique COVID-19 du Mali.
Ceux qui ont eu besoin d'être hospitalisés, il y a à peu près 90% de ces gens n'étaient pas vaccinés. Et quand on analyse encore plus, aux côtés de la mortalité, ceux qui sont récemment morts de COVID sont encore à pratiquement 95 ou 98%, c'est-à-dire n'étaient pas vaccinés. Donc ça, c'est un constat. On a les données. Ça, c'est au Mali.
Des spécialistes de la maladie demandent toujours à la population de se faire vacciner car, selon eux, mieux vaut prévenir que guérir.
À présent, la question d'auditeur. La réponse est donnée par Dr Aboubakar Sidiki Dramé, point focal COVID à l'hôpital du Mali.
Allô docteur, que fait-on des vaccins COVID périmés?
Les vaccins périmés, pour le moment, sont retournés à l'usine de fabrication. Ils ont certainement d'autres essais à faire dessus pour voir la péremption ou les délais passés. Quelle a été la résistance des produits durant cette période-là? Ils font d'autres essais puisque le vaccin n'est pas totalement étudié. On n'a pas suffisamment d'informations puisque le temps de mise en œuvre de ces vaccins-là ne nous permet pas d'avoir trop d'informations. Donc, tous ceux qui sont périmés sont retournés au laboratoire de production.
Chers auditeurs, c'est ce qui met fin à la rubrique Actu Covid d'aujourd'hui.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Un mot de l'actualité en région. À brève, les populations des communes de Koukouri et Karangana dans le cercle de Yoroso sont rassurées par la présence des forces armées maliennes. Depuis 3 semaines, des militaires basés à Tandjo et Karangana multiplient les patrouilles à la recherche des bandits armés dans la zone. Plusieurs frappes aériennes ont été menées dans certaines grottes supposées être des nids de groupes armés. Des sources locales indiquent que des véhicules volés auraient été retrouvés. Et c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Sekou Gadjigo, mise en onde de Mamadi Keïta. N'oubliez pas, vous pouvez la réécouter sur notre site studiotamani.org ou sur Viamo au 37 321.